Ils ont quelque chose à dire et bien souvent à écrire sur le monde professionnel et ses évolutions.
La communication, c'est s'engager. C'est s'engager pour répondre à une vision d'entreprise, à une stratégie.
Ils sont inspirants car ils éclairent le chemin d'un univers de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre les tendances de fond, tenir le cap et progresser. Ils, ce sont les invités d'ASAP, le podcast qui décrypte le monde du travail. Cette troisième saison d'ASAP débute avec l'interview de Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric a écrit un livre, Un DIRCOM n'est pas un démocrate, et va nous expliquer sa vision du métier de directeur de la communication.
Alors je suis Frédéric Fougerat, je suis aujourd'hui le directeur de la communication du groupe Foncia. Le groupe Foncia, pour le situer, c'est le leader européen des services immobiliers résidentiels. J'ai 54 ans, je suis autodidacte, j'ai commencé à travailler il y a plus de 30 ans, j'ai abandonné mes études, une première année d'études de droit, donc après le baccalauréat, pour me lancer dans et participer à la création des radios libres en France. Ça peut paraître anecdotique ou très loin pour les plus jeunes, mais ça a été une aventure exaltante. Ça a été un bon prétexte pour arrêter les études où je n'étais pas forcément à l'aise d'être dans une situation passive à juste apprendre sans avoir à faire. Alors ça m'a empêché de devenir avocat et de jouer un rôle de Robin des Bois comme je fantasmais pouvoir l'être pour être la relation, le soutien, l'aide des plus démunis. Mais ça m'a permis de découvrir un métier, une activité qui se crée, qui était assez naissante. D'une part, celle des radios libres, évidemment, et aussi indirectement les métiers de la communication, dans lesquels il y avait certainement à l'époque des gens déjà très professionnels, mais qui n'étaient pas une activité qui était professionnellement très reconnue. Et quand on voit 30 ans après, parfois où elle en est, on peut imaginer qu'il y a 30 ans, c'était un métier qui n'avait que très peu de considération. Ce premier job, en fait, a fait de moi et m'a donné une image de pro de la communication, même si j'étais très jeune et que j'avais encore beaucoup à apprendre, même si j'ai appris finalement en faisant. Ce qui m'a embarqué dans le monde public et politique, où j'ai dirigé des cabinets d'élus locaux, mission qui était associée à celle de la direction de la communication de ville. J'ai fait plusieurs villes moyennes, j'ai également travaillé à l'Assemblée nationale auprès d'autres élus locaux et notamment un président de région, la région centre. Puis j'ai décidé de tenter ma chance dans le secteur privé, pensant aussi avoir un peu fait le tour du métier ou de mes activités dans le secteur public. Et j'ai donc basculé dans le secteur privé en rencontrant le président d'un grand groupe qui s'appelle Philippe Salle, qui était président du groupe Vedior, qui a été président de groupes différents dans des secteurs d'activité très différents, que sont Géoservices dans le pétrole, qui était Altran, qui vient d'être acheté par Capgemini dans la recherche et le développement, qui était Elior dans la restauration collective et la restauration de concessions, aujourd'hui chez Foncia, dans les services immobiliers. Et la particularité de mon parcours, si on peut dire, c'est que je suis toujours aux côtés aujourd'hui de Philippe Salle, qui a été le président de l'ensemble des groupes que je viens de citer. Le parcours lui-même devait être celui d'un maker, puisque j'ai vécu pas la fin du print, mais la fin de l'exclusivité du print. J'ai vécu les débuts de l'internet, j'ai vécu le début des réseaux sociaux. Donc j'ai vécu dans un métier où je me suis construit effectivement moi-même en apprenant, mais dans un métier, dans des activités où il fallait qui ont été en perpétuelle révolution, et donc il a fallu apprendre en faisant, et aujourd'hui encore on apprend en faisant. Donc aujourd'hui j'apprends en faisant avec 30 ans d'expérience, mais sur beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent et auxquelles il a fallu s'adapter. Moi j'ai eu ce goût, cette envie, et c'est dans ma personnalité, j'imagine, enfin nécessairement. Donc c'est ce qui m'a permis d'avancer, d'évoluer et de continuer, de pas être has-been, même si c'est pas à moi de le dire, mais je pense pas faire partie des has-been. Donc effectivement j'ai été un maker avec probablement une chance, parce que ça relève plutôt du don, de la compétence personnelle, une chose qui ne s'apprend pas forcément, c'est le sens politique. Le sens politique, la capacité de discernement, ce sont des compétences autant personnelles que professionnelles qu'il est important d'avoir dans nos métiers. Évidemment, c'est plus facile quand on en est doté dès le départ pour avancer, évoluer et, si je peux dire, réussir dans ces métiers.
Donc aujourd'hui, j'apprends en faisant avec 30 ans d'expérience.
Ce livre, Un DIRCOM n'est pas un démocrate, c'est une compilation d'une vingtaine de tribunes qui sont en fait des contributions mensuelles pour un site RH sur lequel j'écris beaucoup sur le management, mais parfois aussi sur la communication. Parmi ces tribunes, une d'elles est titrée Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Donc c'était ce titre un peu provocateur et en même temps impactant qui a été retenu par les éditions Bréal pour promouvoir ce livre. Et ce message est assez simple et c'est un message important pour les professionnels de la communication, mais aussi pour leurs interlocuteurs. Et nous, il ne faut pas croire que la communication, elle est faite pour fédérer, qu'elle est faite pour créer du consensus, elle est faite pour plaire aux autres, ou encore pire, se plaire à soi-même. C'est une des grosses erreurs. La communication, c'est s'engager. C'est s'engager pour répondre à une vision d'entreprise, à une stratégie. Et s'engager, ce n'est donc pas plaire. Donc je ne demande pas l'avis aux gens pour bien faire mon métier, pour bien répondre aux objectifs qui sont les miens, pour bien atteindre les résultats que je dois atteindre avec ma vision et ma connaissance des objectifs que j'ai à atteindre. Je ne demande pas leur avis aux gens. Je ne fais pas de démocratie participative. Je ne leur demande pas s'ils préfèrent le bleu ou le rouge, s'ils aiment cette photo ou pas cette photo. En fait, l'exercice de mon activité répond précisément à des décisions que je dois prendre. Ça ne m'empêche pas d'écouter, ça ne m'empêche pas d'être créatif, ça ne m'empêche pas de comparer, mais il y a un moment on doit s'engager, et donc ce n'est pas c'est provocateur, mais la communication, ce n'est pas de la démocratie, c'est un métier et c'est de l'engagement.
À croire que la communication, elle est faite pour fédérer.
Fonctionne de plus en plus en mode crise. Aujourd'hui, les journées d'un DIRCOM sont de plus en plus rythmées sous l'angle de la crise. Il faut toute la journée prendre des décisions. On prend 10, 20, 30, 40, 100 décisions par jour. Et donc, c'est ça, s'engager. Et ça veut dire prendre sur soi, prendre un risque, assumer ce risque, évidemment, avec le discernement, l'expérience, le recul quand on peut en avoir. Donc, c'est tout le contraire de l'image du communicant qui va chercher à plaire à tout le monde, peut-être pour avoir une forme de tranquillité, mais en se trompant complètement sur son métier et sur la façon de le faire. En fait, il y a beaucoup de définitions qui sont valables sur le métier de la communication, mais qui en fait doivent se nuancer en fonction du secteur d'activité, éventuellement en fonction du pays. Donc il y a un certain nombre de facteurs dont on doit tenir compte. Mais de façon générale, je précise cela dans le sens où on pourra parfaitement trouver une situation où il sera préférable que le DIRCOM reste dans l'ombre. Mais même si c'est un métier de l'ombre, ou c'était un métier de l'ombre, avec la communication de plus en plus publique, et notamment à travers les réseaux sociaux, il est certain que être un influenceur, être un ambassadeur et le premier ambassadeur de sa marque, le premier, le second, enfin, parmi les premiers, en tout cas celui qui est légitime et qui va être très facilement identifié et reconnu comme étant un ambassadeur de la marque, c'est évidemment un plus, c'est un plus pour l'entreprise, pour la marque, mais c'est aussi un plus parce que cette valeur sociale, elle a une vraie valeur professionnelle que l'entreprise doit savoir reconnaître et que le communicant doit savoir ou pouvoir mettre en avant. Donc c'est vraiment une compétence nouvelle et qui peut être très très forte. Voilà, c'est une petite provocation, mais c'est vrai que dans nos métiers, on mesure l'efficacité d'une campagne ou d'un propos avec l'unité de bruit médiatique, l'UBM. Et j'ai toujours déploré qu'on ne soit pas capable de mesurer aussi l'unité de bruit inutile, parce que cela arrive souvent aussi, finalement, qu'on parle de beaucoup de sujets sans aucun intérêt, et donc avec le seul sentiment que finalement c'est fait pour faire du bruit. Et on est quand même dans une vie qui est assez stressante, qui est assez violente dans les relations, qui est violente par la pollution. Mais la pollution, c'est pas que la pollution atmosphérique, c'est aussi la pollution sonore, enfin c'est toutes les sortes de pollution. Et finalement, on pourrait aussi mieux vivre si parfois on préférait se taire plutôt que de parler. Donc je suis plutôt pas partisan, moi, du bruit médiatique inutile. Alors vous allez me dire, personne n'est partisan de ce bruit inutile, mais voilà, moi je n'aime pas les coups de com faciles, j'aime pas ce que j'appelle la communication faciale facile, c'est-à-dire les petits coups de com mesquins qui vont faire du bruit 5 minutes, mais qui finalement ne reposent pas sur du contenu, ne reposent pas sur une notoriété ou une réputation durable. Donc voilà, des petites bassesses professionnelles qui peuvent parfois apporter une immense satisfaction en quelques secondes parce qu'on a réussi un coup, mais finalement c'est pas très sérieux, et c'est sûr, ça peut parfois faire justement du bruit pour rien, et le bruit c'est une pollution comme une autre, donc autant éviter qu'il soit inutile. Et quand c'est notre métier de faire du bruit, alors c'est aussi notre responsabilité de veiller à ne pas faire de bruit inutile.
J'aime pas ce que j'appelle la communication faciale facile.
Alors ce qui est intéressant dans votre question, c'est que quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, la communication, ça ne se mesurait pas du tout. Il n'y avait vraiment pas d'indicateur. C'était vraiment une notion marketing que d'avoir des indicateurs et de mesurer les choses. Ça a beaucoup évolué avec la technologie. Mais maintenant, il y a plein d'actions de communication différentes et donc plein de façons différentes de pouvoir les mesurer. Je vais en prendre deux par exemple. Au niveau relation presse, avant en relation presse, on mesurait, la mesure, c'était souvent le sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction quant à un article ou au nombre d'articles qui pouvaient toucher une communication, une expression, un événement, un lancement de produit, toute action de communication. Ensuite est venu l'équivalent publicitaire, où on a réussi à mesurer ce simple entre guillemets communiqué de presse a permis d'avoir X retombées dans les médias. Ça correspond à un équivalent publicitaire de tant de pages achetées, avec en face un chiffre, un montant, s'il avait fallu faire de l'achat média et donc le coût que ça aurait pu représenter. Est arrivé ensuite les indicateurs de tonalité, parce que c'est très intéressant d'avoir beaucoup de retombées presse, mais s'ils sont intégralement négatifs, c'est peut-être extrêmement contre-productif. Pour une marque, la notoriété c'est bien, mais la réputation c'est quand même plus important, donc le bruit négatif n'est pas intéressant. À l'inverse, sur les réseaux sociaux par exemple, on va mesurer l'engagement. Donc ça c'est pas une question qu'on se posait il y a 30 ans puisque ça, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais on va effectivement mesurer l'engagement, et l'engagement il va être je parle des réseaux sociaux ou du web de façon mélangée, ça va être le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires qui peuvent être faits positifs ou négatifs, ça va être ensuite le nombre de clics, c'est-à-dire et éventuellement donc la transformation d'une communication qui devient une information, qui devient un clic et qui éventuellement devient un acte d'achat. Donc en fait il y a plein de mesures et d'indicateurs possibles.
Il y a plein d'actions de communication différentes et donc plein de façons différentes de pouvoir les mesurer.
Et effectivement, la technologie de façon générale et le digital en particulier ont transformé le métier, parce que la technologie a permis d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus autonome, d'avoir des nouveaux vecteurs supports de communication, mais aussi d'avoir des outils très fiables qui justement permettent une mesure plus objective du travail, qui permettent d'avoir d'avérer certaines choses qui avant ne relevaient que de l'intuition, de l'impression. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec des gens un peu vieille école, ils vous disent « Ah ben oui, mais moi, je suis déçu parce que cet article qui est passé dans tel journal, ils ne l'ont passé que sur leur site web et ils ne l'ont pas publié sur leur version print. » Oui, mais le site web, il est vu 100 fois plus que qu'une version papier. Mais voilà, il y a cette habitude ou cette intuition que si on n'est pas dans la version papier, ce serait moins bien. Mais quand on peut en face montrer les chiffres comparés de combien de vues a bénéficié un article sur la version web et sur la version print, qui en plus sur la version print, elle est aléatoire, puisqu'on considère qu'il y a, suivant les publications, 1, 1,5, 2, 3, 4 personnes qui l'ont lu. Mais en fait, c'est assez aléatoire, alors que le nombre d'ouvertures d'une page sur un site web, lui, il est très factuel. Bah, ça montre que justement, ça permet de beaucoup mieux mesurer le travail, et c'est factuel, c'est réel, c'est sincère, c'est honnête. C'est irréprochable.
C'est sincère, c'est honnête, c'est irréprochable.
La communication ne s'aborde pas par l'outil. Et en fait, on ne peut pas vouloir une vidéo, on ne peut pas vouloir une page Facebook. On a d'abord un message, un contenu à partager. Et une fois qu'on a déterminé, défini ce contenu, alors on va réfléchir à qui je dois l'adresser, et une fois que je sais à qui je dois adresser le contenu que j'ai défini, alors quel est le meilleur moyen, le meilleur vecteur pour toucher ma cible. Et en fait, souvent les gens qui ne sont pas du métier de la communication, et parfois ceux qui sont du métier mais qui ont été pollués par des autorités ou des directives qui les ont obligés à fonctionner de cette façon, pensent la communication d'abord par l'outil. Et en fait, l'outil, on n'en a rien à foutre. L'outil, c'est qu'un moyen, mais c'est d'abord la communication, c'est d'abord un message. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et ensuite, comment je vais m'y prendre? Et à qui? Le pourquoi en communication est assez essentiel. C'est pourquoi je fais ça. Parce que souvent, on fait des choses, soit avec une fausse intention, soit parfois sans même savoir pourquoi on le fait. Mais si on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, du coup, bon, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert, si je ne sais pas pourquoi je le fais. Et on oublie on oublie cette question. Le pourquoi en communication, c'est quand même assez essentiel.
La communication ne s'aborde pas par l'outil.
Les valeurs ont une dimension très personnelle, et bien plus personnelle finalement que collective de l'entreprise. Donc, pour moi, l'entreprise ne devrait plutôt pas avoir des valeurs, mais devrait avoir des engagements. Et ces engagements, ce sont donc des objectifs, et des objectifs où on part d'un point qui est zéro ou pas zéro, et dans lequel on va progresser, qui est exactement la philosophie de la RSE, qui n'est pas de régler définitivement un problème, mais de s'engager à progresser sur un problème. Et suivant les problèmes, l'entreprise peut avoir des objectifs sur des quantités différentes, un calendrier différent. Mais ce qui compte, c'est encore une fois de savoir pourquoi on fait quelque chose. Donc, que cet engagement réponde à ce pourquoi, et que le progrès qui est lié à cet engagement soit mesurable, donc c'est concret. Parce que si c'est pas mesurable, finalement ça va ressembler essentiellement à de l'affichage, et si c'est que de l'affichage, alors c'est que de la communication. Et des valeurs, et j'associe valeur à RSE parce que finalement c'est très lié, si ce n'est que de l'affichage et que donc que de la communication, c'est nul, et c'est même pas de la bonne communication.
S'engager à progresser sur un problème.
Être un bon communicant, ce n'est pas être présent partout et s'exprimer sur tous les sujets, et du coup ne donner aucune lisibilité ou visibilité de ce que l'on est ou de ce que l'on pense. Donc ça veut dire ce que j'appelle définir une ligne éditoriale. Si je travaille dans des métiers scientifiques, par exemple, je vais publier ou partager des informations qui concernent ces activités scientifiques. Si je veux travailler dans une école vétérinaire ou auprès d'animaux, je vais me concentrer sur des sujets qui concernent les animaux, qui peuvent être très spécialisés sur un point, qui peuvent être spécialisés sur une géographie, qui peuvent être spécialisés sur une activité, mais je vais rester cohérent avec l'image que je veux donner sur cette thématique. Je crois que dans tous les cas, sauf à vouloir travailler dans la politique, je vais plutôt exclure toute considération ou tout sujet qui sont liés à la politique ou qui sont liés à toute forme de discrimination possible contre soi. C'est-à-dire que je ne vais pas me créer une ligne éditoriale dans laquelle il va y avoir de la polémique possible, et dans laquelle contre laquelle forcément des gens seront pour ou des gens seront contre. Donc je vais retirer tout ce qui est supposé clivant. Mais encore une fois, si on parle d'image professionnelle, le mieux, c'est de se définir une ligne éditoriale et donc un périmètre de thématiques sur lesquelles on peut s'exprimer et sur lesquelles on doit s'exprimer, mais hors duquel on ne doit surtout pas s'exprimer pour garder une visibilité et une cohérence quant au sujet que l'on peut traiter, sur lesquels on est compétent, sur lesquels on est intéressé. Le DIRCOM, c'est un diplomate, parce que parfois il doit aussi, il est aussi l'arbitre de beaucoup de demandes, de beaucoup de sollicitations, ayant plus ou moins autorité, et il doit justement faire passer son expertise tout en sachant l'expliquer. La pédagogie, c'est important en communication. Il faut savoir dire non, mais quand on ne peut pas se contenter de dire non, on doit dire non et expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est un expert et un diplomate. Et surtout, un décideur, je le redis, parce que toute la journée, il faut décider et il faut être capable de s'engager. Donc ce n'est pas non plus un métier qui est fait pour les gens qui ont plus de facilité dans le travail en collectif, dans le sens où on ne leur demande pas de s'engager, ou dans le participatif. C'est un métier où il faut savoir prendre des risques.